Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 12 février 2011. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Zarma Farai et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le programme lénifiant destiné à faire abandonner l'idée aux jeunes d'organiser spontanément des apéros Facebook sauvages dans l'idée improbable de faire tomber les instances étatiques que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Est-ce que vous avez fait lire cette présélection à vos parents? Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé si c'est le cas?
J'ai pas fait lire à mes parents car ils sont anglais, mes parents ils auraient rien compris. Mais j'ai fait lire à ma sœur certaines BD, elle a bien aimé alors.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB. Bonjour et bienvenue, bonjour Ultimatum, je sais que t'as la voix un petit peu trop cassée et j'ai fait un texte à rallonge d'ailleurs sans le vouloir.
Non, bonjour Daskritch, voilà. ça va, on va essayer.
Ça va, du sport est en train de ranger les casques après avoir rangé le courrier.
Voilà, il démêle les fils.
Je tiens à signaler, c'est vrai que là, pour ceux qui nous suivent en direct, ils savent donc hier Moubarak a stepped down de son boulot. Et là, je viens de voir sur Twitter Sifawi, que je rappelle, est le scénariste de Al-Mani Dejad.
Oui.
Voilà. Il vient d'annoncer qu'il y a 10 000 manifestants actuellement à la place du 1er mai à Alger, ce qui veut dire que nos auditeurs qui nous écoutent très régulièrement depuis assez longtemps en Algérie, à mon avis, vont avoir des problèmes pour capter Internet pendant une à deux semaines. Donc j'espère que ça va pas être trop problématique pour eux et surtout j'espère que ils vont pouvoir échapper parce qu'à mon avis, on va vers une autre période de trouble, un autre endroit. C'est la théorie des dominos. Il y a Libye qui a pas bougé, je ne sais pas pourquoi. Politique, il n'y a pas...
C'est les éventails. Il agite l'éventail pour faire... pour repousser.
Oui, oui. Politique... Oui, oui. Ou je sais pas. C'est vrai qu'il a des gardes du corps, en général. Il choisit pour la petite taille, côté costaud.
Voilà.
Voilà. Private joke complètement à part. Je rappelle qu'il y a le festival Made in Asia qui continue jusqu'au 20 février à Toulouse. Et donc, la Corée du Sud est toujours le pays invité avec... toujours... pas mal de thématiques, donc il y a eu le concert de Pansori qui est passé, mais il reste toujours le festival côté cinéma, puisqu'on avait reçu la semaine dernière l'administratrice des deux salles, le Central à Colomiers. Il y a aussi à la Cinémathèque de Toulouse un programme qui est franchement intéressant. Et c'est ce week-end, voilà, je tiens à le signaler, puisqu'il y a Bonjour Dieu, The Coast Guard, Locataire, Sympathy for Mr. Vengeance, tiens, de l'ultra-violence, La Vallée de Pia, donc il y a vraiment des grands classiques du cinéma qui ont plus de 50 ans, et d'autres qui sont vraiment récents, il y a Lady Vengeance, d'ailleurs, on va en parler peut-être tout à l'heure, de l'auteur original.
Ah, bon.
Bah oui, Camille Moura.
Lady Vengeance, tu confonds pas avec Lady Snowblood?
Lady Snowblood,
non,
oui.
Non, c'est pas
là. Ah, voilà. Ça, encore une fois, on me prend au dépourvu. Vous avez entendu le petit jeune tout à l'heure qui a fait l'introduction. Franchement, ça a été... lui, on lui décernerait la palme du meilleur client au micro pour le jury cette année prix du Conseil Général des Jeunes de la Charente Actua BD. Elle était longue cette phrase. J'espère quand même qu'il va. Il va s'orienter vers une carrière de trimain parce qu'avec lui je sens qu'on va bien se marrer.
Ouais, c'est bon client le petit.
Voilà, on dit ça hein, parce que cette partie-là de l'émission ne sera pas en ligne sur le Conseil Général de la Charente, donc autant en profiter. Tu l'as peut-être manqué, c'était dans le Spirou daté du 26 janvier. Il y avait une BD de 3 pages de Baru qui racontait comment il a eu son premier grand prix, son premier prix du meilleur album à Angoulême. 3 pages absolument hilarantes d'interviews de journalistes, pas comme nous, c'est-à-dire les journalistes de la PQR qui débarquent le week-end pour avoir un papier. Sauf que
C'est qui lui? C'est Moebius. Ah, il est connu.
Oui, ça c'est quelque chose qu'on a vu. Voilà. Thomas était en train de prendre une photo pour raconter la scène au moment où le Grand Prix, le prix des, le jury des présidents, voilà, donc il n'y a que des têtes connues. Et Thomas était en train de prendre une photo, il se faisait bousculer par des photographes de la PQR qui justifiaient leur clicheton. Et Thomas expliquait, non, lui c'est un tel. Non, c'est lui un tel. Donc c'était très drôle, voilà. donc cette BD 3 pages de Baruch, je la recommande et je repasse du coup le Spirou à Thomas s'il l'a pas lu. C'est encore plus drôle parce que justement cette année-là Angoulême il n'y était pas, puisque Dargo, qui était son éditeur à l'époque, considérait que non, il n'y avait aucune chance que Keket Blues ait le moindre prix.
Ah oui, c'est ballot. Ah,
c'est ballot, voilà. C'est encore plus drôle, donc il le fait sans méchanceté aucune, mais c'est assez rigolo. Piratage avec un spécial pirate dans le numéro du Psychopathe 228 de février 2011, où il est question à la fois du piratage des eaux chaudes, etc., le piratage actuel où des Érythréens et des Éthiopiens attaquent en fait des yachts de plaisance avec des zodiaques, et aussi piratage sur le net avec un dessin. Alors je cache le nom. Je laisse deviner à du sport qui c'est qui a pu signer cette couverture. Alors, sachant donc que depuis le numéro sale de janvier, le psychopathe est passé en couverture interne en couleur. Et donc je vais l'aider en trouvant une autre illustration de ce dessinateur un peu plus dans le style qu'il doit connaître. Bah, évidemment, quand je suis en direct et que j'ai oublié de bookmarker les pages, je ne les trouve pas. C'est Kaza.
Ah ouais, ouais, ouais.
Kaza,
ouais.
C'est Kaza, donc qui participe au Psychopathe.
Avec un Z.
Oui, exactement.
Oui, pas et... comme le mec Gaza.
Quoi, j'ai pas prenez j'ai un pas... peu de lecture non, et arrêtez ces vannes débiles.
J'ai pas cité de marque.
Je suis le spécialiste des vannes débiles. Ça va, quoi, un petit peu.
C'est vrai.
C'est vrai. Non, qu'on s'aide, ouais, c'est vrai.
Voilà, vous écoutez Radio FMR, comme vous avez pu le constater, il y a un gros derrière. Sachez que c'est 100 fois pire dans mon casque et on en est vraiment désolé, on a cette panne depuis un mois.
Ah, moi j'ai un petit.
Toi t'es un petit parce ouais, que moi c'est. Ouais.
Ah voilà, l'expérience en direct.
Là, il vient de mettre son casque sur le micro.
Ah bah non, voilà. Ça marche pas.
Non, on n'a pas entendu.
Voilà, c'est. Mais en fait, c'est non, aussi fort.
Il fallait qu'on fasse du son et tout, quoi.
Voilà, non. C'est aussi fort que vos conversations, donc c'est un petit peu pénible. Bah attends, on va retenter.
Et il y tient, hein, son truc, hein.
Voilà, je vous ai explosé les oreilles. J'en suis heureux. Ça s'appelle un Larsen, ça, mais ça, c'est un programme technique clairement voulu et décidé. On va entamer les sorties BD.
Commencer par un des chouchous de Xavier, mais peut-être pas pour la bande dessinée, pour autre chose.
Oui, parce que là, il se fout un petit peu de la gueule des gens, vu le prix. Hein. Tu m'excuses.
Ah oui, non, mais ça, c'est pas le prix de la BD, c'est le titre. Donc, là, ce classeur d'écolier, c'est une bande dessinée qui s'appelle...
Un classeur, c'est un cahier.
Un cahier texte.
Ouais, un cahier avec des spirales. Donc, ça s'appelle 41€ pour une poignée de psychotropes, et c'est scénarisé et dessiné par Davy Mourier, et oui, celui de No Life. Alors, Davy, je vais lui faire passer la BD. Voilà. Alors, déjà, on peut résumer ça par une tagline. Donc, il le met au début de la BD. L'enfance, c'est le laps de temps séparant le néant de l'acceptation du néant. Voilà, donc ça donne déjà l'esprit super positif de cette bande dessinée. Alors, il parle souvent de elle. Alors, elle, c'est la fille que l'auteur a fréquentée pendant presque 5 ans. Sa dépendance physique et mentale, comme il dit... Alors, suite à une rupture, il se décide à suivre une psychanalyse. C'est, comme il dit, cet artifice tentant de rendre la vie plus supportable, ayant pour effet de la rendre plus compliquée. Cet album est principalement constitué d'une série de strips courts.
Il faut un petit peu rappeler aussi que Davy Maurier est quelqu'un qui est assez angoissé.
À oui,
la
non,
fois
mais
angoissé
je dirai
physiquement
après
ça. Et tout ça, il l'a déjà raconté dans
oui,
une BD.
Voilà,
donc
mais
c'est...
je dirai après ça.
On peut penser que c'est un joyeux drill, mais intérieurement, c'est un clown triste.
Voilà.
Attention.
Donc, qu'est-ce que c'est 41€ C'est constitué d'une série de strips courts de 1 à 3 rangées de 3 cases qui rend compte de ses séances chez le psy sur un temps décalé et un sens de la formule percutant, faisant oublier le parti pris répétitif du graphisme, puisque c'est juste des personnages qui bougent pas sur un fond identique. Donc en fait, c'est les bouilles qui changent un petit peu et t'as le texte par-dessus. Donc c'est vrai que là, dépenser des sous pour voir ça, moyen. Sauf que l'auteur, en fait, il a agrémenté sa bande dessinée, il n'a pas fait que ça, il a fait aussi des photomontages pour rappeler d'où il vient, qu'est-ce que c'était son enfance, l'enfance qu'il a eue, il avait des parents formidables, il passait ses après-midi devant le club Dorothée avec, en s'achetant des figurines de Goldorak et tout, il a toujours vécu là-dedans, il a jamais grandi depuis, et donc il a vachement attaché à l'enfance, et donc Davy, donc on en a souvent parlé dans cette émission, donc c'est un joyeux drill de la chaîne No Life qui a animé ça 1%, qui est scénariste et co-créateur de la série Nerds, il joue dedans aussi. Il est présentateur de l'émission consacrée à la bande dessinée qui s'appelle Roastrip, qui est diffusée sur le portail d'Ankama.com et sur No Life. Donc d'ailleurs, l'émission ce sera lundi prochain, la prochaine émission. Et donc voilà, donc le mec, il est connu pour ça. Il a aussi un blog qui s'appelle Badstrip, qui a 5000 visiteurs uniques par jour, où il raconte un peu sa vie, soit en vidéo, soit en dessin. Donc d'ailleurs justement il dit si je mets pas mon blog à jour tous les jours, je vais perdre des lecteurs et plus personne ne va m'aimer. Donc ça c'est une formule qu'il y a dans sa bande dessinée. Et donc le principe de cette bande dessinée, c'est que c'était une série qui était déjà parue sur son blog, et il arrive en Ankama en disant tiens, j'ai aussi ça sur les bras et tout. Le directeur de collection, enfin le directeur artistique d'Ankama, Run, lui dit ah non mon gars, là ça va pas du tout, les graphismes c'est un peu pas de chac, donc tu vas me faire le plaisir de tout redessiner et tu reviens me voir.
Sachant que 41€, en fait, c'était un strip, manière strip de journal, en 4 cases verticales.
Oui, donc, non, pas vertical, c'était en horizontal.
Il y en a qui l'avaient fait en vertical, parce qu'ils les avaient aussi fait paraître dans des journaux, comme Canard PC. Mais c'est vrai que c'était assez rush et tout.
Oui, bon. Voilà, et en plus, ça a le mérite.
Désolé, Davy, tu dessines.
Alors, c'est vrai que le parti pris, ça, c'est un peu rigide. Donc, c'est. Voilà, au niveau du visuel, c'est pas une foudre de guerre non plus. Mais c'est le contenu des textes, hein, puisque c'est une succession de petites formules sur la vie, complètement désabusées, en relation avec l'enfance et tout, qui est vraiment percutant. Et alors, du coup, il a tout redessiné. Et il a, comme je disais, il avait agrémenté tout ça de nouvelles pages. Et ces nouvelles pages, il a scanné un peu crânement des bouts de blagues, des bouts de papier malabar, des plein de briques et de brocs, des petites pubs qu'il avait dans ses Chocapic, enfin plein de petits trucs comme ça. On voit l'ombre parce qu'en fait, comme ça, il y a du relief. Donc en fait, il a pas cherché à bouger l'ombre, il a gardé tel quel, ce qui fait qu'à un moment donné, tu tournes une page et t'as vraiment l'impression de toucher des bouts de papier, du post-it qui sont scotchés par-dessus, etc. Donc c'est vrai que le parti pris graphique est pas mal. Il nous avait accordé une interview l'année dernière, Davy, il nous avait dit « Moi, de toute façon, je sais pas dessiner. » Alors certes, c'est pas quelqu'un qui va dessiner comme Michel-Ange. Par contre, le mec, il a le sens du graphisme et il fait d'une qualité, ce qui est un défaut à la base, c'est-à-dire qu'il va proposer autre chose.
Sa méthode, enfin, il y a un an, tu disais littéralement autre chose de ce qu'il faisait depuis,
qu'est-ce
t'as pas mal évolué.
Qu'est-ce que j'avais dit?
Oh, qu'il sait pas dessiner du tout.
Non, j'avais dit que son dessin était particulier, je lui avais dit. Et ouais. Là, il avait éclaté de rire, il a dit plutôt que je sais pas dessiner.
Ouais.
Voilà. Alors après, c'est vrai que il est allé pousser plus que ce qu'il montre sur son blog, ça c'est sûr. Parce que après, son dessin, depuis que justement Ron lui a dit de tout redessiner, donc du coup, ce qu'a fait Davy, c'est qu'il s'est imposé un parti pris, c'est-à-dire que chaque fois qu'il prend le train, il fait un petit strip au stylo, en trait direct, sans crayonner ni rien. Et donc ça l'a entraîné à faire du dessin un peu plus nerveux, avec des noirs et des blancs qui fonctionnent. Et c'est vrai que son style graphique a fait un bon phénoménal en un an. Donc pour moi, c'est
c'est une bande dessinée singulière, mais qui fonctionne bien. Et au point de vue graphique, c'est vrai que c'est quelqu'un, si vous voyez son blog et tout, ça, on a l'impression que les directions, le visuel, ça part dans tous les sens. Mais c'est quand même, y a quand même une pertinence derrière, parce que le message qu'il fait passer, le texte, ça se tient. Donc c'est loin d'être une BD juste de fanfaron en disant « Ouais, je me suis mis à la BD parce que j'ai réussi en télé, j'ai réussi dans Internet. » Non, 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 ça veut dire quelque chose. Et on voit que c'est un mec super mal dans sa peau, qui a quand même quelque chose à dire, et qui... Voilà, il y a de la sensibilité qui fleure quand même.
Voilà, il avait fait un excellent billet sur son blog où en fait il y a le personnage de lui dessiné que les lecteurs avaient appelé Bad Davy, posait des questions à lui-même mais en vidéo. Et en fait il s'explique à lui-même pourquoi il se dessine beaucoup moins, c'est parce qu'en fait il se dessine quand il se sent mal. Donc c'était à mon avis c'était vraiment un très bel usage justement du média, enfin du multimédia en général, et ben ça explique beaucoup mieux justement quand il fait des BD, pourquoi il les fait et pourquoi il avait fait 41 degrés 41 euros.
Et donc là on voit que la forme, c'est vraiment un cahier d'écolier avec des spirales, et c'est vrai que c'est la forme ludique qui saute aux yeux, et on voit que c'est quelqu'un qui s'est amusé avec le médium. Donc en plus, il y a un sticker qui a marqué « Offert, une vraie dépression ». Donc c'est vrai que si vous blindez pas la tête avant de lire ça, vous sortez de la BD, vous avez un gros nuage au-dessus de la tête, et il va falloir un peu de temps avant que ça disparaisse. Donc voilà, sa mauvaise conception de la vie est un peu contagieuse. Mais sinon, c'est un Enfin, moi, je trouve, je me suis vraiment... je trouvais ça intéressant, quoi. Voilà, donc 41 euros pour une poignée de psychotropes par Davy Mourier. C'est édité, co-édité entre Ankama et les éditions Adali. Et je vous recommande la lecture, justement pour ceux qui connaissent Davy, homme de télé, et pas du tout le gars sensible qui est aussi artiste.
Alors il faut expliquer le sticker, ce qu'il y a dessus, vu d'envoyé spécial, parce que le pauvre s'était fait laminer, manipulé dans le grand journal sur Canal+, où il était question de jeux vidéo. Et il a eu droit à presque la même chose d'envoyé spécial, sauf qu'il avait un petit peu provoqué. Et ensuite, il a parodié l'envoyé spécial en question dans 101%, où il avait plus ou moins expliqué comment on faisait pour manipuler les journalistes faisaient pour manipuler les gens pour les faire apparaître comme odieux, débranchés, asociaux et tout ça. C'était assez rigolo.
Donc, j'avais pas vu ça.
Vous étonnez pas du sticker. Ça tient de ce personnage, voilà.
Et puis il m'a dit aussi à Angoulême que c'était aussi une auto-vanne contre lui. Il s'était vanné lui-même
Le sticker. C'était ça, voilà. Donc voilà, c'est bon, il faut être abonné à une chaîne de télé pour pouvoir voir le truc en question. Alors, juste une chose, c'est coédité.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Pardon, excuse-moi. J'étais en train de curer la table, donc il y a du tabac partout. Je suis désolé. Quittons la bande dessinée d'auteur et autobiographique, tiens, ça fait très Ego Comics, pour aller vers le manga.
Oui. Alors, c'est chez le même éditeur, mais c'est du manga cette fois-ci, avec une BD qui s'appelle Hitman Part-Time Killer. Alors, Hitman, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo et le film, hein. Attention, voilà, c'est un tueur, mais le truc important, c'est Part-Time Killer. Littéralement, ça veut dire...
Tueur à temps partiel.
Voilà.
Mais... l'autre Hitman dont tu parles, je crois que c'était également, ça vient également d'une bande dessinée, me semble-t-il.
Au départ, c'est un jeu.
Ah, au départ, c'est un jeu vidéo. Voilà.
Alors, en plus, je me suis renseigné un peu sur Internet, ça n'a rien à voir l'histoire, donc il n'y a aucun doute. Alors, Tokichi Inaba n'est autre que le redoutable tueur double flingue. Pas parce qu'il a deux flingues, mais parce qu'il en a dans le pantalon. Alors, il obéit au clan Konbini. Sa réputation n'est plus à faire et la délicieuse Shinatsu pimente ses missions. Oui, mais voilà. Tokichi n'est pas le véritable double flingue. Le vrai est mort, chargeant notre modeste employé de bureau de secourir sa copine qui était un peu en grave danger. À mi-temps, celui-ci doit donc délaisser son travail et sa femme pour abattre la besogne du clan. assassin depuis à peine quelques semaines, le rookie se débrouille même plutôt bien, car il utilise les mêmes recettes qui lui ont permis de devenir mon commercial. Toujours un coup d'avance et de la tchatch. Alors justement,
pas mal.
Voilà, alors justement, si vous croisiez un tueur professionnel légendaire qui vous charge de secourir sa copine canon, et si un clan de mafieux vous offre du matériel gratos, c'est-à-dire tout, gilet pare-balles, fusil à lunettes, tout, pour supprimer des criminels en étroite collaboration avec la demoiselle qui joue parfois son allumeuse, qu'est-ce que vous faites? Sachant que, quand même, les mecs qu'on vous charge de buter et les yakuza que vous allez devoir rencontrer dans vos missions qui vous veulent pas du bien, c'est vraiment des enfoirés. Hein. Donc, faut
ouais,
quand même
mais
avoir
eux
le...
aussi, ils savent tirer. Oui. Enfin, eux, ils savent tirer, quoi.
Oui, voilà. Alors, c'est vrai que le Tokichi, c'est un débutant. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait jamais manipulé d'armes avant. Sauf que lui, il a pour lui d'être un gars, on dirait qu'au départ, c'est un peu un naze. C'est un peu un mec qui sait rien faire, sauf que non, il sait pas rien faire. C'est-à-dire que c'est un excellent commercial dans sa boîte, un peu gentil, il est marié à une femme et tout, qu'on connaît pas trop encore. Mais justement, il va utiliser son sens de l'anticipation et prévoir les coups bas de ses adversaires commerciaux, mais il va l'appliquer justement au monde des Yakuza. Donc, on va voir comment il va réussir à torpiller des missions. Par exemple, il n'a pas les réflexes d'un tueur. C'est-à-dire, par exemple, s'il est plongé dans le noir et que le tueur à côté il a une vision infrarouge, il ne va pas avoir le réflexe de se déplacer ou essayer d'avoir des réflexes normaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va utiliser aussi l'arnaque. Par exemple, il va faire un duel. Et ça va vous rappeler justement le duel dans Los Angeles 2013 avec Snake Plissken. C'est-à-dire que le mec, il dit allez, on bouge pas tant que la montre, elle a pas tilté. Sauf qu'à un moment donné, l'autre, il lui envoie une vanne. Et puis lui, il la prend pas du tout bien. Donc du coup, comme il avait prévu un flingue ailleurs et l'autre le savait pas, il transgresse certaines règles. Donc il se conduit vraiment comme un enfoiré. Mais un enfoiré...
Ah non, comme un commercial.
Voilà. C'est exactement, c'est le monde du commercial transfiguré dans le monde des Yakuza. Alors, par contre, ce qu'il y a de rigolo, c'est que comme c'est un commercial et qu'il mène de front sa carrière professionnelle et son activité de tueur...
Ah oui, on sait jamais, on peut
il arrive
la couverture.
Parfois...
Qu'il croise les mêmes personnes.
Pas encore, ça va arriver, mais que des fois, son patron l'appelle pendant une mission. Alors, c'en est où le contrat? Ouais, là je suis bloqué là, mais non, t'inquiète pas, mais le contrat va être signé avant la tombée du jour. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, ça, je te rappelle. Sinon, oui, la nana, je la veux vivante quand même parce que voilà. Donc il est obligé de négocier. Hein. Et alors, des fois, ça lui sert parce que dans des missions, les autres ils disent mais à qui il parle et tout. Alors il essaie de tenir un contrat auprès de. Enfin, c'est une négociation et les mecs ils pensent que ça s'applique à leur monde à eux. Donc ils disent
Surtout que quand on négocie dans le monde des affaires au Japon, c'est généralement très 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 compliqué. Ça se négocie des fois un an à l'avance pour un contrat qui vaut pas grand chose.
Hein. Alors, en
donc,
plus,
c'est assez chaud donc.
Et en plus, on va venir gros comme une maison. Comme il fait une paire avec la nana. On n'a pas encore rencontré sa femme. Donc, à un moment donné, la nana, là, sa femme, elle va tomber sur des SMS. La nana va chercher le mec pour des missions. Donc, il va y avoir des gros quiproquos amoureux à un moment donné. Sachant que lui, il est vraiment pas insensible au charme de la nana aussi. Et il se met aussi sur ses grands chevaux quand il voit qu'il y a un yakuza qui commence à peloter la nana. Sauf que la nana, elle a un défaut, c'est que dès qu'on la touche, ça la met dans des états pas possibles. Donc, elle est assez. Elle a du mal à résister.
C'est pas encore 22h30, c'est ça?
Voilà.
Bon, d'accord.
Donc, il réagit un peu comme un vrai rookie. Et il donne l'impression vraiment de débarquer du début à la fin. Mais c'est pas n'importe qui non plus. Alors, ce qui est dommage dans la BD, c'est qu'il passe trop vite, je trouve, du statut du mec qui débarque à celui qui se dépatouille de toutes les situations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Il n'y a pas de ah oui, mais là, tu vois, tu nous as foutu dans la merde, t'as déclenché la mort de quelqu'un alors que tu n'aurais pas dû, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout ça l'esprit de la BD. C'est plus la comédie sexy transposée dans les porte-flingues. Donc, vraiment, les quiproquos qui amènent des situations un peu macabres sans faire exprès, c'est pas trop l'esprit de la BD. Si vous voulez vous vraiment vous marrer, enfin, c'est pas vraiment la grosse déconne, mais vous souriez et. Le monde du Yakuza vu à travers cet angle-là, franchement, je vous le recommande. Donc,
tu vas y arriver. Hitman, ouais. Part-Time Killer de Hiroshi Muto. C'est dans la collection Kuri chez Ankama. Voilà. Et c'est recommandé par nos confrères de 13ème rue. Ah, mais j'étais sur la fin du CD, tiens, tu vois.
Ce Ce hmm est insupportable.
Alors là, tu vois, je viens d'enchaîner avec du haut-tech, donc ce sera encore pire. Oui, ça, c'est la musique de fond.
Alors maintenant, on va finir avec un peu du lourd quand même, avec Soil. Alors Soil, c'est fait par un gars qui s'appelle Atsushi Kaneko. Et Atsushi Kaneko, on vous en avait déjà parlé, pour un manga complètement crade, ultra violent, et vraiment pas sympa du tout, il s'appelait Bambi.
On n'avait pas qu'en parlé d'ailleurs, on l'avait carrément eu en interview.
On l'a vu en interview, on l'avait
voilà, c'est à retrouver sur Actua BD. Oui, non mais je l'ai déjà donc.
Ah oui, c'est vrai. Alors, la petite ville japonaise de Soul Newton est une ville nouvelle, artificiellement créée au milieu d'un désert. Mais la disparition mystérieuse d'une famille de cette ville attire l'attention des enquêteurs sur ses drôles d'habitants, ses monstruosités et ses décorations florales trop belles pour être honnêtes. Mais que viennent faire ces gigantesques colonnes de sel sur les lieux du crime ?
C'est le thème de l'artificialité de la culture pop a toujours été chez Atsushi Kaneko. Enfin, quand on se souvient de l'interview, on sait pourquoi.
Alors, c'est, alors
ce manga... Je suppose que c'est dans le même délire, quoi.
Ouais, enfin, non, là, c'est plus sage, c'est plus un polar. Moi, ça m'a vachement rappelé X-Files. Certains épisodes très décalés de X-Files où tu vas être dans la normalité et tout. Et tout d'un coup, ça bascule dans le...
Improbable.
Ah, ouais, dans l'improbabilité. Alors... En plus,
Twin Peaks aussi, ça fait penser.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en plus, ce qu'il y a de frappant dans la BD, c'est que au fur et à mesure de l'enquête, alors déjà les enquêteurs, c'est des gars, c'est un duo. Alors le mec, il est ventripotent, il passe son temps à se sentir de partout, ses doigts, ses aisselles et tout. Il se gratte les couilles pendant toute l'enquête parce qu'il dit ça l'aide à réfléchir. Et son assistante, c'est une nana binoclarde qui est le nez dans ses carnets et tout. Et lui, il arrête pas de faire du harcèlement sexuel sur elle. Alors déjà, le duo d'enquêteurs, vraiment. Particulier, et à un moment donné tu te dis, pendant qu'ils avancent dans l'enquête, c'est pas possible, quand tu plonges dans le quotidien de cette petite ville, de trouver un seul habitant normal, parce qu'au début tu dis ouais c'est des voisins normaux, les mecs qui prennent la police, t'as le chef du quartier, c'est un gars gentil quoi, c'est un mec qui est un peu à cheval sur la propreté des fleurs et tout, la mamie bon elle est un peu défigurée, bon c'est normal, il en faut aussi, bon elle est gentille aussi, bon il y a des chats crevés, bon ça arrive aussi, bon ouais, à un moment donné ça commence à faire beaucoup, et tu te dis à un moment donné mais il y a pas vraiment d'habitants normaux dans cette putain de ville, c'est n'importe quoi, c'est même les gamins ils sont bizarres, c'est t'as un mec, un ado, ben à un moment donné, tu le vois, à la première apparition, il est en train de se palucher dans un espèce d'immeuble désaffecté au milieu des débris de verre. Mais c'est quoi ce truc, quoi? Alors en plus, la BD commence, mais en plus Kaneko, il est très malicieux parce que quand il plante des ambiances, par exemple avant de présenter l'ado qui se fait plaisir, ben t'as des plans sans parole, des fenêtres, d'un immeuble, tu dis ouais c'est bon il va présenter un immeuble, et après tu vois des bulles qui disent ah, trois petits points, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, en plus, le mec, il prend son temps, c'est-à-dire le mangaka, il prend au moins trois doubles pages avant de présenter la belle rue, avec les belles fleurs bien alignées et tout, et puis tu tournes la page, et là, t'as une espèce de monstre qui arrive, c'est juste un gars défiguré qui est en train de crever des chats. Ouais, ok, bon... Et quand t'arrives à la fin du tome, tu te dis, c'est pas possible, c'est une ville complètement dégénérée, tous les personnages, mais même les enquêteurs et tout, ils sont tous bizarres. Et à un moment donné, il y a l'enquêteur principal, le gros là, il dit, de toute façon, les personnes normales, ça n'existe pas. Comme un pied de nez au lecteur qui dit, ouais, mais non, mais c'est bon, ça, rassurez-vous, on sait, ouais, ils sont pas normaux, c'est normal. C'est, voilà. Donc, alors, graphiquement, le trait de Kaneko, il est super rigide, c'est-à-dire que on dirait un manuel explicatif, tu sais dans les notices, t'as toujours, il n'y a rien qui dépasse, c'est super figé, mais ça, en fait ça participe à l'ambiance parce que tu te dis que quel que soit le personnage, ça te donne une espèce de monstre en puissance derrière, tu te dis dans son sourire avec où il a dessiné toutes les dents et tout, il y a un truc qui est bizarre. Alors,
ça ressemble un peu au trait du dessinateur de Big Guy. Hein.
Big Guy.
Ouais. J'ai oublié.
Job Darrow.
Oui, exactement.
Ouais, un peu, ouais. Mais
d'ailleurs, il le cite graphiquement, des fois.
Ouais. Alors, mais là, c'est vraiment... Tu sens que rien ne dépasse, mais t'as un style quand même qui est... Malgré tout, je sais pas comment il fait, c'est à la fois propre et très nerveux. T'as les hachures, c'est tiré, mais c'est mathématique, tellement c'est précis. Et en même temps, tu vois, il dessine des trucs super crades. Et alors, ça donne le côté underground. Tu commences à feuilleter. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce trait? Mais j'aime pas ça. J'aime bien quand ça vit un peu. On dirait que c'est mort, mais non, ça vit en fait. Et en plus, il a une sens de découpage de l'ellipse et le fait de faire monter la tension sans parole. Cette BD, c'est vraiment saisissant. C'est parmi les. Enfin, si vous voulez voir vraiment un manga saisissant, alors. Forcément, vous n'allez pas le conseiller à tout le monde. Vous n'allez pas quand il va y avoir par exemple le tome 2 ou le tome 3 qui va sortir. Moi, je vais me dire, ah chouette, il est sorti. Mais c'est pas peut-être pas pour autant que je vais l'acheter dès qu'il est sorti, tu vois. Alors que bon, des mangas qui te prennent au trip comme Pluto par exemple, tu sais que tu vas l'acheter dans les premières heures. Mais tu vois, Sol, tu vas feuilleter avant, tu vas dire ouh, à quoi je vais m'attendre là cette fois-ci. Ça va, c'est où que ça va déraper. C'est un peu malsain, mais super intéressant. Alors voilà, Sol, c'est voilà, c'est une espèce de bizarrerie que je vous conseille par Atsushi Kaneko. Moins crade que Bandit, mais tu sais pas où ça va mener cette putain d'enquête. Avec ses colonnes de sel à la fin du tome 1, tu sais. Mais il fait des digressions des fois sur des personnages. À un moment donné, bon, l'enquête principale, c'est de retrouver une famille avec des membres disparus. Tu as des immenses colonnes de sel au milieu. Et les colonnes de sel, tu les oublies à un moment donné. Il fait référence qu'à 3 pages de la fin. Mais tu te dis, finalement, c'est pas ça l'important. L'important, c'est les personnes disparues. Alors, mais c'est quoi ce sel? C'est. Voilà. T'as des gars, à un moment donné, t'as un accident. T'as une main qui tombe. T'as un mec dedans. Tu vois que c'est un criminel. Mais il est complètement défiguré, forcément, parce qu'il a eu un accident dans la gueule. Alors, voilà. C'est plein de personnages bizarroïdes. Voilà. Soil, tome 1 de Atsushi Kaneko. Voilà. Si vous aimez l'étrange, les ambiances à la Twin Peaks. Voilà, je vous le recommande. Et c'est Shankama, toujours dans la collection Kuri. C'est un excellent manga, assez volumineux.
Ouais, les précédents tomes qui étaient sortis de cet auteur étaient chez IMHO. On vous les recommande tout autant, sincèrement.
Voilà, c'est du costaud. Hein.
Voilà, pour la pause pub supplémentaire, je vais demander à Dusport de lire ce texte.
Attention, il lit
quoi, le texte.
Oui.
Ce soir, j'ai fait vibrer l'iPhone de Tarvalagnon, qui s'était retrouvé dans le soutien-gorge de Samanji, c'est Hot, le TC.
C'est qui a écrit ça?
Bah, c'est moi.
Bon, voilà. Moralité, le TC, venez-y, vous nous y verrez.
Non, mais c'est n'importe quoi.
Je comprends rien du tout.
Non, mais c'est...
Là, il est en train d'être furieux.
Non, mais c'est bon, on peut faire des pubs privées de joke aussi. Tiens, du sport, tiens, tu veux faire la pub pour ton crémier à côté. Tiens, moi, j'ai un excellent boucher chez moi. Hey, allez à Monsieur Trucmuche qui fait des excellents travers de porc.
Non, mais il faut vous expliquer pourquoi Thomas a la voix complètement ravagée, voilà. Hier, il est sorti. C'est complètement nul.
Ah, TC, Tennis Club, d'accord.
Non, Toulouse Carnet. Non, ça aurait pu.
Ça aurait pu. complètement idiot. Je le revendique. Oh. Je vais essayer de ne pas hurler, mais je vous jure que ce dans les oreilles, c'est vraiment insupportable. Le prochain bouquin dont on va parler, c'est un Kazuo Kamimura. Nom qui n'est pas inconnu dans cette émission, mais qui a été connu en Europe un peu tard. Il faut dire que l'auteur est mort dans les années 80, un peu trop tôt, alors qu'il était sur la pente ascendante d'un succès sans pareil, puisqu'il avait vraiment sorti des BD dans les années 70 qui avaient durablement marqué le manga et aussi l'industrie cinématographique japonaise. La plaine du Kanto, Image flottant de la jeunesse, c'est le premier tome donc, de cette nouvelle série qui est publiée par Kana, qui semble avoir les droits sur l'ensemble de sa production, et c'est sorti dans la collection Sensei, collection adulte qui plus est. La raison, il y en a une, elles sont même multiples. Kamimura, c'est le dessinateur maintes fois cité, notamment pour des œuvres cultes, comme par exemple Lady Snowblood, qui inspira à Tarantino son Kill Bill, Lorsque nous vivons ensemble, le désarroi de la jeunesse des années 60 qui ne peut profiter de la libération sexuelle dans une société extrêmement codifiée, ou encore Folle Passion. Et là, je tirerai un voile pudique, parce que nous n'avons pas droit au macaron moins 16 à cette heure-ci. Cette fois-ci, point de femme fatale et fragile qui entraîne dans sa déchéance les hommes qu'elle aura mis dans les raies de son amour. Oui, je suis très fier de cette phrase. Non, celle d'un bambin qui doit avoir 6 ans. Kinta, qui a pour seule famille son grand-père dans le grenier à riz du Japon en 1945. et le Japon, cet été-là, vient justement de capituler. C'est plus de 20 années de propagande non-stop du grand Japon, du culte de l'empereur entretenu par les militaires et les industriels qui se lézardent brusquement suite au terrible bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Le discours de l'empereur à la radio, les Japonais se prosternaient devant leur poste lorsque de telles allocutions, n'est suggéré que par un poème, lequel parle de l'émotion d'un peuple déboussolé. Un bombardier tombe dans une rizière. Alors que les habitants se préparent à une battue pour attraper et lyncher le seul survivant américain, le grand-père de Kinta va le voir sans armes, discute en anglais avec lui et convainc les villageois de laisser tomber les armes. Après tout, la guerre est finie. Et les Américains commencent à occuper le pays, mais bizarrement, ils ne violent pas à tout bout de champ. Et ils ont ce truc bizarre, le chewing-gum. Cela fait partie des mille et une choses qui vont bouleverser tout un pays dont on a affirmé qu'il était le peuple supérieur pendant 20 ans. De même que le retour des enfants du pays partis au front, de ceux qui se sont sacrifiés leur corps, parfois leur vie, au nom de l'empereur, la confrontation avec ceux qui ont réussi à se faire porter pâle et sont restés au pays. Pour les enfants, ce désarroi se retrouve aussi à l'école. Les professeurs se retrouvent bien embêtés car tous les programmes scolaires sont à revoir dans une optique démocratique. Que va-t-on faire ? Même apprendre aux enfants la chanson à la mode « Les cerisiers » de l'époque est devenue bannie parce qu'elle est ouvertement militariste. Et devoir de maths, comment adapter les problèmes de consommation d'essence d'un chasseur zéro en fonction de la distance qu'il faut pour bombarder... comment adapter tout ça ? C'est toute une société dont la morale est déstabilisée jusque dans le plus simple éducation. Kinka l'est aussi. Après tout, sa mère est morte dans les bombardements américains et malgré son très jeune âge, il pourrait bien verser dans un fanatisme revanchard. Dehors, il faut accepter que maintenant les Américains marchent dans les rues, approchent un peu trop près les jeunes femmes, tandis que tous les anciens combattants doivent se réinsérer dans la vie civile. Le grand-père de Kinta, qui fut un illustrateur apprécié jusque dans les années, à la fin des années 30, est rappelé par ses anciens éditeurs. Et il reçoit aussi la visite d'un peintre connu, le grand maître Yanagawa, qui a resté quelques semaines dans sa maison. Ce sont autant de découvertes pour Kinta, et peut-être le début d'une vocation. Entre les jeux polissons, dans les rizières et les forêts, ces moments de camaraderie qui font découvrir la violence, la bêtise et la sexualité. Mais à 6 ans, cela reste encore bien innocent. Le sous-titre précise « Images flottantes de la jeunesse ». À bien relire la bio de l'auteur, il devait avoir 5 ans au moment de l'histoire. C'est peut-être une autobiographie cachée. Elle montre que le monde innocence de l'enfant n'existe pas vraiment. Peut-être dans une société, même dans une société aux mœurs rigides, même dans une éducation militarisée, et qu'elle soit pure fiction ou dans une version romancée de sa biographie, Kazuo Kamimura nous mène une fois de plus dans une œuvre troublante, la morale incertaine et vénéneuse. La plaine du Kanto, image flottante de la jeunesse, c'est dans la collection Sensei Shikana et c'est de Kazuo Kamimura. Thomas me fait des réprimandes sur mon texte parce qu'il est bourré de fautes, parce que aussi j'aurais pu écrire beaucoup plus de choses, mais je dois le dire, c'est quand même pas évident parce que Kazuo Kamimura c'est un maître du manga, disparu qui plus est, et là il fait plus ou moins son autobiographie cachée et j'ai vraiment été intimidé par l'écriture de cette chronique, c'est pas évident. Il y a plein de choses aussi, hein. Il y a plein de détails sur sa vie et en même temps je voulais pas trop déflorer certaines choses du manga, il y a des trucs qu'on fait... Ah ouais, ah ok. Ah d'accord, son camarade en fait... ok. C'est pas évident à lancer la chronique sans risquer de vous couper quelques-unes des surprises. Néanmoins, je vous le recommande. et peut-être que vous aurez moins d'a priori que moi finalement pour aborder ce texte. C'est vrai que moi c'est le côté chroniqueur qui rend la lecture pas évidente. C'est chiant d'avoir le dans la pleine oreille qui vous couvre carrément la voix. C'est pas facile. Heureusement, on va passer en son THX, en volumétrie 3D 99 neuvième, avec les sous-titres qui sont plus loin que le personnage qui est censé sous-titrer et tout ça, puisque c'est l'heure, mesdames et messieurs, monsieur du sport, tu peux préparer le lait blanc, le lait très froid pour te cailler la voix. C'est l'heure, mesdames et messieurs, du... Et c'est la grande cérémonie qui se prépare, c'est la saison, il y a tous les Césars, les Oscars, les Golden Globes.
Et il y a aussi les Gérards du cinéma. Magnifique.
Les Gérards qui d'habitude avaient lieu en mai avant l'ouverture du Festival de Cannes, mais après tout, les Gérards tapent surtout sur le cinéma français, alors quoi de mieux que le faire avant les Césars.
Et oui, le 21 février se tiendra les 6e Gérard du cinéma, récompensant évidemment cette grandiose année cinéma 2010 du cinéma français. Magnifique. Alors justement, comme du sport, il lit super bien les catégories des Gérard.
Attends.
On va lui laisser boire un coup avant.
Voilà, et à noter, si vous avez la TNT, vous pouvez regarder en clair sur Paris Première la cérémonie. Qui sera le 21 février à normalement 20h30 et plein de vannes autour.
Sur quelle chaîne ?
Sur Paris Première.
Sur Paris Première.
Voilà. Et les Gérards, c'est un peu les Grazi, voilà, du cinéma français, sauf que le cinéma français est encore plus sujet que le cinéma américain, puisqu'on se prend pour des artistes, pour des Américains aussi. Enfin bon, c'est...
Des auteurs.
Voilà, tout ça.
Alors, je vais donner la liste des lauréables.
Si tu en as marre, je peux le faire aussi. Hein, voilà. Je l'ai sous les yeux.
Voilà, donc la liste pour
alors,
du sport.
Dans l'ordre.
Ah, mais tu l'as ?
Mais bah, oui.
Ah, mais tu l'avais préparé aussi. Ah, mais oui, d'accord.
Les intitulés, au moins. Page 4.
On fait ça correct.
Page 4 du conducteur. Attends, mais je te l'avance. Putain, ouais, c'est ça le problème des prompteurs, c'est que des fois, quand il faut l'avancer à la main, la manivelle. Tu vois.
Ouais, des fois, il y a des trucs qui sont doublés, mais enfin, bon, on va faire avec. Hein. Alors, je sais pas si on a le même ordre, mais enfin, j'espère, hein, du moins. Quoi. On verra.
Ouais, je vais
te débrouiller, hein, toute
vas-y,
façon.
Vas-y, commence.
Alors,
le Gérard du film français sorti avec un titre en anglais, parce qu'on sait jamais, sur un malentendu, on peut croire qu'il est américain.
Gérard of the French movie that run with an English title because we don't know on a miscomprehending you can understand it is an American movie.
Voilà, donc les titres pour vous donner une idée, on va pas vous le faire à chaque fois, mais là voilà, c'est Sweet Valentine, Kill Me Please, Happy Few, Enter the Void et Blind Test.
Gérard, du chanteur qui fait l'acteur, ou le contraire, en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, il le fait mal.
Et les joyeux lauréables, qui c'est qui va venir retrouver son parpaing sur la scène ? Et il y a Patrick Bruel, Benjamin Biolay, Lio, Jacques Dutronc, Philippe Catherine, et sur la route, Raphaël.
Un petit peu de glamour. Avec Tom Salvador et l'orchestre de Fred Rabold, ça faisait longtemps.
Gérard du film où on t'explique que le racisme, c'est pas bien.
L'italien, la rafle, hors la loi, rien à déclarer et elle s'appelait Sarah.
Quitte à avoir un cœur.
Gérard du film de Partouzeur.
Ah oui, rien que les titres Libre-échange, Les invités de mon père, La fête des voisins, La horde et La meute.
Il n'y a pas les petits mouchoirs ?
Non, pas les petits mouchoirs, mais il est lauréable dans une autre catégorie.
Non, parce que côté sopalin, on aurait pu.
Bravo. Merci, bravo, magnifique.
Gérard, de l'acteur qu'on croyait mort depuis 85 et qui en fait tourne encore.
Oula, là il y a du lourd. Alors, on a Claude Jansac, ex-femme de Louis de Funès, Venantino Venantini, ex-tonton flingueur, Henri Guibé, ex-Salomon et Juif, Mylène de Mongeau.
Ah.
Et Bernard Ménez.
Ah oui, ouais, favori.
Mylène
favori.
De Mongeau, qui avait tourné dans les années 60 hein, avec Fantomas. Là aussi, une sélection qui sent bon le formol. Bon, je ne sais pas. Bernard Ménez, tu es sûr qu'il est chanteur? Je croyais qu'il était politique.
Bon, c'est fini les chanteurs. Là.
Ah bon, j'ai eu peur.
Surfait.
Alors, Gérard, du On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Là, j'en ai loupé un. Hein.
Oui, me semble. Bon, attends, je te le fais.
Non, mais c'est pas grave.
Non, mais il se peut que je me sois planté en faisant le copier-coller.
Non, mais c'est pas grave. Moi,
Gérard du cinéma qui ose enfin dire la vérité sur les femmes.
Ah oui, alors ça, c'est très drôle. Alors, toutes les filles pleurent, la tête en friche, l'absence et potiche. Alors, le film...
Alors, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Alors, ce sont des films réalisés par des gens qui jouent dedans. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de blague dans le titre.
Ensuite, Gérard du petit couple qui se la joue Alain Delon et Romy Schneider dans Paris Match, mais qui fait plutôt penser à une pub de la Saint-Valentin pour des Montchéris.
Alors, nous avons Vincent Cassel et Monica Bellucci, Jean Dujardin et Alexandra Lamy, Gilles Lelouch et Mélanie Douté, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, et Marion Cotillard et Guillaume Canet.
Ouais.
Alors, petit favori là, qui?
Ah oh, bah. Canet.
Canet Cotillard.
Ouais. Allez, facile, facile.
Surtout qu'ils sont mignons et tout, tout.
Et puis qu'ils sont susceptibles d'aller. Non, peut-être pas.
Ensuite, alors celui-là il est long. Hein.
Gérard, du film que tu vas voir alors que ta meuf t'a largué, t'as perdu ton boulot, t'as appris que t'avais le cancer, le sida, mais bon, tu t'es dit, la vie continue, je vais aller au ciné pour retrouver un peu de joie de vivre. Et puis putain, t'arrives devant ton UGC là au menu.
Pieds nus sur les limaces, l'absence, je voudrais aimer personne, une nouvelle ère glaciaire et qu'il m'y plaise.
Chaque fois, c'est le même gag, on a du mal à aller jusqu'au bout.
Gérard, de l'actrice qui bénéficie le mieux des réseaux de son mari, ou plutôt de son futur ex-mari, enfin bon, on sait plus trop où ils en sont, toujours est-il qu'elle continue à tourner.
On le dit même pas, parce qu'il n'y a qu'une seule,
oui.
Voilà, et on le dit pas.
Ensuite, Gérard, du désespoir féminin.
Ah oui, alors là, Jane Birkin, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Carole Bouquet, Mathilde Seigné et Audrey Tautou. Ah, Audrey Tautou, ça fait plusieurs fois que je la vois là. Hein.
Et Gérard du désespoir masculin.
Ah, on a Jean Reno, Daniel Auteuil, Fabrice Eboué, Franck Dubosc, Benoît Magimel et Richard Berry.
Erreur de copier-coller, j'intercepte. Gérard du réalisateur, quand tu vois ses films, t'as du mal à réaliser parce qu'en fait, lui aussi.
Oui, donc
bon, je peux te le faire.
Je sais plus où il est.
Je peux te le faire du coup, puisque je l'ai sous les yeux. Alexandre Arcadi pour Comme les 5 doigts de la main, Isabelle Mergo pour Donnant Donnant, Gaspard Noé pour Enter the Void, Jean-Luc Godard pour Film Socialiste et Christophe Honoré pour Homme au bain.
Et on avait aussi deux catégories. On avait le.
Alors, moi j'ai encore Gérard du film Guimauve que tu te forces à aller voir uniquement pour emballer une meuf.
Oui.
Sauf qu'il y en avait un autre aussi.
Il y a L'arnaqueur, L'amour c'est mieux à deux. Ensemble nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. Les petits mouchoirs et la chance de ma vie.
Gérard du plus mauvais film de l'année et probablement de la décennie.
Alors, ça, oui, je l'ai là aussi. Alors, Camping 2, ouf, la rafle.
Ouf.
Les aventures extraordinaires d'Adèle Blansec, L'Immortel, Imogène, Imogène McCartery, Enter the Void et Crack.
Ouais. Et il y a également le Gérard du Petit Cul.
Oui. Alors, c'est les mignonnes actrices toutes menues alors. Clémence Poésie, Léa Seydoux.
Ah ouais, ouais.
Mélanie Thierry, Audrey Tautou, Mélanie Laurent. Et Léa, c'est d'où qui est... Ah mais non, c'est un faux copier-coller puisqu'elle est... Non, non, c'est pour un seul film.
Et Gérard du gros cul.
Ah bah là, forcément. Hein. Donc on a...
Du lourd.
Carole Bouquet.
Voilà. Catherine Deneuve.
Ouais.
Isabelle Adjani.
Ouais.
Mylène de Mongeau.
Ouais.
Claudia Cardinal.
Ouais.
Et Judith Godrèche.
Elle était facile. Je crois qu'on a oublié le prix qui est en association avec le quotidien Minute.
Ouais,
20 minutes, pas Minute.
Oui, ils Gérard, la font tout le temps cette vanne.
Gérard, de l'acteur qui avant nous faisait bien rire et qui maintenant nous fait bien chier.
Ah ouais, alors on a Gad Elmaleh, Albert Dupontel, Benoît Poulvorde, Edouard Baird et Bernard Campan.
Je dois dire que là, ça devient un petit peu dur.
Voilà, qui c'est qui
Gérard du... On est c'est jamais mieux servi que par soi-même, on l'a fait, je crois.
Non, on a tout fait, mais non, ouais, ça y est. Ouais.
Gérard du Petit Couple... Ah oui, bon, d'accord, ok. Donc, il y a eu un... Tu me l'as fait dans quel ordre, lui?
Ben, dans l'ordre de la feuille.
Bah ouais.
Ah, que t'as filé Thomas.
Bah non. Non, c'est non. Que toi, tu as lui affilé.
Bon, moi, je l'ai pas du tout dans le même ordre, bon, d'accord.
Non, mais c'est marrant.
Ah ouais.
Non, mais il se fait des blagues à lui-même.
C'est ça, l'informateur.
Ouais, c'est génial.
Ah, ouais.
Magnifique.
J'ai dû faire un contrôle Z.
Alors, cette fois-ci, qui c'est qui va retrouver, qui c'est qui va aller récupérer son parpaing sur la scène? On sait pas.
Sachant que dans le milieu de la télévision, ils ont plus d'humour que dans le milieu du cinéma. Je ne sais pas pourquoi.
Ouais. Je sais pas.
Enfin bon, tout ça pour dire que... C'est l'heure de l'interruption musicale et évidemment quand j'ai le CD qui tourne là. Rêve d'antan, Roger Bixel et l'orchestre de Fred Rabold. Et non, même pas, on m'a inversé le CD. Ah. Si c'est le bon, hop. Vous écoutez FMR, c'est tout à fait normal, c'est le supplément week-end.
Rappelle-toi, chérie, de ce bon temps où nous étions tous deux encore des enfants. Déjà nous rêvions les deux tendrement de jouer ensemble. Et maman, tu me dis, et aller au boulot, c'est toi le grand patron, les sous et ben c'est ton créneau. Moi par contre reste à la maison et chante des chansons à nos garçons. Ah c'était beau ce temps de notre jeunesse, tous les jours la joie et tous les jours printemps. Depuis des années tout a changé, le temps nous a creusé, les tampons grisonnés. Nous avons marché main dans la main et nous avons pris le même train. Nous nous avions fait les mêmes promesses, nous avions nos faiblesses, mais beaucoup de tendresse. Personne n'aurait pu nous empêcher d'être heureux, rien n'aurait changé. Rien n'aurait pu nous empêcher d'être très heureux. De se laisser aller, viens avec moi danser et laissons-nous d'amour griser. Tous les deux, comme au bon vieux temps, comme l'oiseau dans le ciel, l'aile dans le vent. Vieillir ensemble par les mêmes souvenirs, autant où nous jouions maman, au temps où nous jouions papa et maman.
c'est Roger Bixel et oui, vous êtes sur FMR. Désolé, je me suis fait avoir par le lecteur CD une fois de plus. T'appuies sur un bouton, il fait autre chose. Bus. Les guitares à 11.
Non, non, mais non.
Non.
Non, non, c'est pas encore les guitares à 11. Alors, le livre de Keith Richards, Life, est sorti il y a à peu près 6 mois, hein, tranquille, hein, quand même. Hein,
ouais.
C'est, mais ça... Ça en faisait justement un bon petit phénomène d'édition et en même temps ça faisait un excellent cadeau de Noël à offrir ou à recevoir et tout sans problème.
De rien.
Bon, et puis bon, il nous faut le temps de le lire avant de le chroniquer aussi.
Il faut le temps de le lire aussi parce que c'est quand même un pavé, faut le lire, hein, plus de 500 pages, hein, 550 pages.
Ouais,
en
je
anglais
sais,
comme en français.
J'ai eu un excédent de poids à l'aéroport.
Voilà, donc il faut se le taper. Alors, enfin. Les Rolling Stone maniaques vont dire enfin on a une autre vérité que celle de Mick Jagger, c'est-à-dire le communicant, le major communicant des Rolling Stones, le mec qui est en avant, c'est normal, c'est le chanteur et tout, celui que Keith Richards dans ce bouquin à un moment trouve qu'il est affublé du LVS, du lead vocalist syndrome, c'est le mec qui veut
le
se mettre en avant.
Le syndrome du chanteur. Voilà,
le chanteur le syndrome du chanteur de groupe de rock, enfin rock. Bref. Et enfin, parce que on a maintenant l'ensemble de l'historique des Rolling Stones, hein, c'est-à-dire sur 50 ans quand même, hein, puisqu'ils ont commencé à se rencontrer en 1960, on va dire pour faire court. Et donc ça fait quand même 50 balais que maintenant le groupe existe et que c'est le même noyau dur depuis le départ. Et si on avait quelques communications de la part de Mick Jagger, si on avait déjà eu les bouquins des autres membres des Stones, surtout Bill Wyman qui en a sorti deux, mais lui c'est autre chose. Et également un petit peu Bill Wyman, également le batteur. Donc Charlie Watts qui avait également sorti son bouquin mais là plus comme une auto-analyse on va dire suite à son addiction et tout dans les années 80, donc c'est un petit peu différent. Il y avait bien sûr tous les bouquins qui sont sortis sur l'historique des Stones, il y en a même eu un ou deux de manœuvres en France et tout, mais bref, c'était quand même des bouquins qui étaient construits d'après des ouï-dire, d'après des semi-révélations, d'après des légendes urbaines, on va dire, même, qui ont eu la vie dure pendant des années, des décennies et des décennies. Et là, on a le bouquin où on se dit, peut-être que là, on va tomber soit dans le non-dit le plus total, comme c'est généralement assez l'habitude quand il s'agit de biographies de gens célèbres, mais qui n'ont pas l'habitude d'écrire, on va dire, des bouquins, voire des autobiographies ou des biographies. Et là, on se rend compte que c'est tout à fait potable, que ça passe vachement bien. Pourquoi ? C'est une histoire très linéaire. Et Keith Richards, aidé en cela par un journaliste qu'il connaît depuis les années 70 et en qui il a relativement confiance, on va dire, il en parle d'ailleurs, hein, de la confiance, de l'amitié dans ce bouquin, il évoque tous les thèmes, on a une histoire linéaire des Rolling Stones depuis le départ, et l'histoire surtout de celui qui, dans le duo créatif qui a fait que les Stones ont commencé, ont eu du succès, ont pu faire des tubes et ont réussi à se maintenir si longtemps. Eh bien, on n'est pas la partie créatrice du musicien pur, on va dire, quoique Mick Jagger est également considéré comme étant musicien, car outre le chant, pratiquait également l'harmonica à ses débuts, et la guitare un petit peu plus tard, dès le début des années 70. Mais sur ce thème, on va dire, Keith Richards est un peu plus circonspect, on va dire, quant au jeu de guitare de son collègue des Rolling Stones. Sinon, on comprend un petit peu mieux le personnage de Keith Richards, le personnage de Keith Richards qui dans les Stones a toujours été, on va dire, le brin ténébreux, celui qui dit pas grand chose, celui qui fait la gueule, celui qui, bon, si tu lui adresses la parole, il te fout un pain dans la gueule. Enfin, c'était un petit peu cet aspect-là, alors que Mick Jagger, bon, de par son jeu de scène exubérant, de par ses exubérances également en dehors de la scène et tout, de par son caractère un petit peu plus communicant, eh bien, arrivait mieux à se faire accepter. Bien que dans les années 60, il faut quand même se le rappeler historiquement et musicalement et sociologiquement, eh bien, il y avait ce gros antagonisme qui a surtout été monté par la presse et par les communicants, les publicitaires, entre les méchants Rolling Stones et les gentils Beatles. Quoique, on peut dire que lors de leur concert, il y avait les mêmes, on va dire, exactions entre guillemets, à savoir qu'il y avait, et au concert des Beatles et au concert des Stones, des petites filles qui n'en pouvaient plus, des jeunettes de 14, 15, 16 ans et tout, qui enlevaient leur culotte pour la balancer sur scène. Et c'était comme ça, émeute, enfin bon, c'est arrivé des deux côtés. Donc, si on a cherché à les opposer et tout, c'était pour des raisons, on va dire,
commerciales.
D'ailleurs, on apprend dans ce livre que Keith Richards était un très bon pote de John Lennon, qu'ils ont fait plusieurs fois la fête ensemble et plus y affinité. Enfin bon, au niveau des fonds et tout ça. Bref, qu'en fait, tout ce milieu-là, eh bien, ce sont des gens qui étaient opposés sur la place publique, mais qui en privé faisait partie globalement du même monde. Et ce monde que Keith Richards.
On a eu exactement la même chose dans le hip-hop américain à fin des années 80. On tenait absolument à opposer côte Est et côte Ouest, alors qu'en fait, pas du tout. Ils se respectaient les uns les autres en privé et tout, et ils usaient d'astuces pour essayer de se rencontrer.
Voilà, tout à fait. Alors, ce qu'on apprécie particulièrement, ce que j'ai vachement apprécié dans le livre, c'est que, eh bien, c'est Keith Richards qui raconte son histoire. Donc, c'est un écrit qui est fait à la première personne, du début jusqu'à la fin. Et ça permet d'avoir, de réduire un petit peu la distance qui peut exister entre le lecteur et l'auteur. Quoique, bien sûr, les textes ont certainement été retravaillés pour être un petit peu plus lisibles. Mais on sent bien qu'il y a la patte de Keith Richards derrière avec son langage assez imagé, on va dire, ses expressions qui sont typiques des Anglais de cette époque. Et là, on est embarqué dans une histoire vraiment très passionnante, l'histoire de Keith Richards. Donc, depuis sa toute petite enfance et tout, dans les faubourgs de Londres, il nous apprend également comment Londres s'est développé, comment Londres s'est transformé. C'est vraiment très très intéressant. Il y a beaucoup d'écrits qui sont consacrés également au processus créatif qui est très important et qui remet un petit peu les pendules à l'heure en ce qui concerne la signification d'une chanson par rapport à un contexte, on va dire. Non, ils n'étaient pas systématiquement anticapitalistes ou vraiment pro-communistes quand ils ont écrit Street Fighting Man. Non, Angie n'est pas une chanson qui est écrite sur la femme de David Bowie, Angela Bowie, mais sur la fille de Keith Richards. Enfin bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Et on apprend vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'on apprend surtout que...
Ça change tout, cette révélation.
Ça change beaucoup de... Il y a beaucoup de choses comme ça où on se dit, mais ça change un petit peu les trucs de l'idée de perspective et le processus de création. D'ailleurs, moi, ça me scie parce que ça part de rien et tout, quoi. Quand il dit que le morceau Satisfaction, il a eu le riff dans un rêve, il dormait et tout, quoi. Puis il se réveille, il se fout près de la piscine avec sa guitare, il rejoue le riff et tout, et puis il dit simplement Satisfaction, et puis Mick embraye sur le reste de la chanson en disant ah ouais, on pourrait, et puis c'est comme ça que se crée une chanson qui va devenir l'un des hymnes des années 60 et qui va devenir le gros tube des Stones, qui continue d'ailleurs de jouer sur scène. Et de ce côté là on en apprend beaucoup. Alors bien sûr, il y a beaucoup de termes techniques qui sont employés par des musiciens, des accords, des explications de la technique de la guitare et tout, qui peuvent paraître un petit peu obtus, mais Keith Richards arrive justement à bien expliquer les choses suffisamment simplement pour que même le non-musicien va se sentir accroché, il va comprendre un petit peu comment est-ce que ben, lui, Keith Richards et tout, qui au départ n'a jamais appris la musique dans une école, hein, mais a commencé à gratouiller sa petite guitare, à jouer Malaguena ou des conneries de ce genre, eh bien, au fur et à mesure, bien, comme l'ensemble d'ailleurs pratiquement des musiciens, eh bien, il commence à apprendre à bien jouer de son instrument, à jouer ensemble avec d'autres personnes et à former un groupe. Et il y a un des leitmotifs qui est assez intéressant et tout. Bon, l'humilité dont il fait preuve et tout en assumant ses erreurs en ce qui concerne son addiction, en ce qui concerne sa violence, il faut dire aussi que c'est quand même un mec qui, du fait de son insécurité permanente, il se sentait plus faible par rapport aux autres. Quand il était plus jeune, il se faisait tabasser dès qu'il rentrait tous les jours. Quand il rentrait de l'école, il se faisait tabasser par des garçons qui étaient plus grands que lui. Il passait des journées entières à se demander comment est-ce que je vais faire pour éviter ce chemin, passer par un autre chemin et tout, quoi. Ça lui accaparait. Enfin bon, tu peux imaginer l'enfance qu'on peut avoir dans ce genre de truc et tout. Donc, ce qui fait qu'il s'est toujours baladé avec un couteau sur lui, un flingue, et ça pendant des années. Surtout pendant les années où il était accro, on va dire, à des drogues un petit peu dures. Mais il fait preuve d'humilité donc, mais on arrive quand même à se dire que c'est quand même lui qui a l'air de détenir le plus la vérité en ce qui concerne les Stones, parce que justement il ne se met pas en avant, hein, il ne dit pas c'est moi le patron, c'est pas Mick, c'est moi qui ai tout créé, c'est moi le big boss. Non, il reste à sa place, on est un groupe, on forme une entité, et en fait tout ce qu'on voulait depuis le départ, et moi ça a toujours été mon rêve quand j'ai commencé la musique, c'est devenir le meilleur groupe de blues de Londres, c'est tout quoi, c'était notre seul truc. Et tout ce qui est arrivé par la suite après, c'est du bonus, c'est cool, moi ça me permet de jouer ma musique tranquille, de faire ce que je veux, peinard, je suis à l'aise et tout, et je le souhaite à tous les musiciens, c'est comme ça que ça marche. Et puis ça donne un bouquin qui est vraiment très très bien torché. De toute façon, hein, pour l'Estonien en diable, il n'y a pas de problème. C'est le bouquin à lire sans problème. Alors dans les deux versions, hein, que ce soit la version anglaise ou française, que ce soit la brochée, c'est-à-dire couverture rigide, ou la couverture souple, il n'y a pas de problème, vous avez la même chose. Ça change un petit peu au niveau des photos de couverture. La photo de couverture de la brochée se retrouve à l'intérieur pour l'édition souple, mais sinon les petites photos qu'il y a à l'intérieur et qui sont des photos très personnelles et tout, on y voit le papa, la maman, la famille et tout ça, c'est assez intéressant, c'est sympa, et bien entendu aussi quelques photos inédites des Stones, photo de couverture David LaChapelle, photo de derrière, enfin pour la brochée, Cécile Beaton, enfin bon, c'est du monde, et Cécile Beaton qui était un mec avec qui faisait très souvent la fête d'ailleurs, comme d'autres gens très très connus, hein, qu'il a pu côtoyer parce que c'était un Rolling Stone. Là aussi c'est assez intéressant de voir comment il remet les choses en perspective par rapport à des gens qui sont supposés être célèbre pour une raison ou pour une autre. Il raconte l'histoire également de Basquiat qui a très souvent traîné avec son ex-femme Anita Pallenberg au début des années 80 avant qu'il soit bien connu. Enfin bon, on est vraiment dans le monde de la contre-culture en Angleterre, aux États-Unis, un petit peu partout, avec ceux qui ont été des acteurs de cette contre-culture. Là aussi c'est assez intéressant. On raconte également, il raconte aussi très bien comment le manager qu'ils ont eu au départ, qui, après avoir fait un petit peu l'image commerciale des Beatles, eh bien, s'est occupé d'eux, a voulu en faire d'autres Beatles, ça n'a pas trop marché, mais musicalement a su leur laisser la bride sur le coup et a pu faire que les Stones se développent au début des années 60. Bref, tout ça, c'est dans cet excellent bouquin Keith Richards Life. C'est le même titre en français, de toute façon, il n'y a pas de problème, version française, version anglaise, et c'est sorti chez Lafon en version française.
Et du coup, est-ce que tu as comparé pour voir si la traduction, ils avaient enlevé un petit peu d'allusion à des drogues ou quoi que ce soit ?
Non, mais je pense pas. Non, mais il parle franco, il parle vraiment au niveau des drogues, de tout ça, du sexe même, très librement, il n'y a pas de problème. Hein. On raconte même comment couper de l'héro pur, quel est le dosage et tout, enfin bon, plein de petites choses comme ça.
Ah oui, effectivement. Et, alors c'est qui vraiment... C'est qui l'a amené la boulette ?
Ah, bah, quelle boulette ?
Bah, la dernière fois, ils ont abandonné un concert, une tournée de concert, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est cassé la gueule en allant chercher en haut de sa bibliothèque la boulette.
Ah non, 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 en fait, il raconte cette histoire et c'est vachement marrant parce qu'il disait personne ne me croira jamais. Et en fait, je voulais bouquiner un livre d'anatomie de Léonard de Vinci que j'avais tout en haut de ma bibliothèque.
Ouais, personne d'ailleurs ne l'a cru, effectivement, parce que...
Ouais, mais si, parce que bon, il y a la photo, tu le vois dans sa bibliothèque, justement, et tu vois que bon, ben, tu dis... Enfin, ça fait la bibliothèque, tu pourrais te dire, oh ben, ça fait le mec qui dit, ouais, je lis, regarde, j'ai une super bibliothèque. Tu vois, quoi, tu as la photo de sa bibliothèque et tout, donc... Et donc, il raconte l'incident où il monte sur une chaise, pas trop assurée et tout, quoi. Et malheureusement, il y a une des étagères tout en haut qui se pète et il se prend tous les bouquins sur la gueule avec tout le monde qui était en dehors, en train de la piscine, dehors et tout. Lui comme un con, sous les bouquins, je peux plus bouger et tout. Enfin bon, bref, il raconte également l'épisode du cocotier. Il remet un petit peu en perspective les légendes urbaines comme le fait qu'il va se faire très souvent changer le sang en Suisse. Il remet également les choses en perspective quand il y a eu cette histoire qui est sortie comme quoi après la mort de son père il avait fait un rail avec les cendres de son père. Enfin bon,
il y a eu du glock et du n'importe quoi dans la
voilà, ça veut dire qu'il met en perspective, ça veut dire qu'il dément ou...
Ben, c'est-à-dire que lui il propose sa version, hein. il dit bon voilà, ça s'est passé comme ça et puis c'est tout con, mais enfin bon, et il explique bien quel est le rapport entre le fait d'être une personnalité publique le fait d'avoir toujours quelque chose à démontrer et tout quoi. Alors il raconte que ça l'a toujours fait marrer que pendant les années 70, il se retrouve toujours en tête du top pendant 10 années de suite. C'est un record. Je suis toujours en tête chaque année du top du Melody Maker ou du New Musical Express en ce qui concerne les pop stars qui vont bientôt crever. en 81-82, c'est une des années où il décide vraiment d'arrêter pour de bon, pratiquement. Il aura quelques rechutes, une rechute ou deux. Il décide d'arrêter vraiment l'héros, donc il dit bon, ok, c'est terminé, on peut plus et tout. Et là, il dit ouais, là j'ai été un peu déçu parce que j'étais plus qu'en deuxième position.
Il a
vachement d'humour, c'est ça qui est très intéressant dans ce bouquin également.
Il dit dans ce bouquin qu'il quitte, que ça split Rolling Stone.
Ah non, pas du tout, hein, non, de toute façon.
Parce que c'était une légende comme quoi c'était ce qui allait être annoncé et tout, puisqu'il comptait. Plus faire du cinéma et tout le reste.
Non, mais ça c'est des conneries, mais enfin bon, de toute façon,
Il fait la presse anglaise.
Oui, non, mais tant qu'il y aura du pognon à se faire avec les Rolling Stones, il n'y a pas de problème, je veux dire, ça fait une rente. En plus, lui, personnellement, ça l'emmerde pas. Lui, ce qu'il préfère, c'est se retrouver sur scène, jouer du rock'n'roll, c'est tout. Le reste, il s'en bat, tu vois ce que je veux dire. Autre anecdote qu'on apprend également dans le bouquin, c'est que le saxo que tu entends là en ce moment est un saxo qui s'appelle Bobby Keys, qui est américain, qui est né dans le Texas et qui en fait est né le même jour, la même année que Keith Richards.
Ah d'accord.
Et du fait que la première fois ils se sont retrouvés en 65-66 lors d'une tournée américaine, ils se sont revus plus tard et c'est devenu le saxophoniste avec Jim Price, le saxophoniste attitré des Rolling Stones pendant leur tournée et très souvent, assez souvent. Sur disque, c'est Bobby Keys donc qui fait. Keith Richards raconte que pendant qu'ils étaient à Nelcote sur la Côte d'Azur, à un moment donné,
soi-disant pour
beaucoup pour de gens très connus passaient donc les voir dans cette ville à Nelcote, et à un moment donné arrive une certaine Nathalie Delon avec son petit bébé Anthony. Et elle venait de rompre avec Alain Delon. Et il se trouve qu'elle s'est sentie un petit peu bien avec Bobby Keys, le saxophoniste, donc, et qu'ils ont un petit peu fricoté ensemble, mais qu'ils ont dû arrêter très net parce que justement elle était au centre du scandale Markovitch, hein, qui éclaboussait la femme de Pompidou également.
Voilà, c'était l'homme de main, entre guillemets. Voilà. garde du corps d'Alain Delon et qui aussi était, trafiquait un peu les rumeurs. Hein.
Voilà, voilà, garde du corps d'Alain Delon et tout, barbouze, on va dire. Et Keith Richards dit vraiment dans le bouquin, c'est son explication, il dit oui, c'est le mec qui avait couché avec Nathalie Delon et puis Alain Delon l'avait pas aimé, donc c'est pour ça qu'il l'avait fait éliminer. C'est ça l'histoire à Markovitch, hein, puisque on l'a jamais retrouvé en plus ce mec, son corps, on n'a jamais retrouvé son corps.
Je crois qu'il y a une BD et un film qui sont prévus en production cette année sur cette histoire.
Voilà, et donc il raconte petites anecdotes de ce genre, tu vois quoi. Donc c'est pour ça que ça remet les choses en perspective également, concernant des gens que tu connais, mais qui sont pas forcément de la même bulle que les Rolling Stones. On parle à présent de télé avec d'inédit. Pas de série inédite cette semaine, mais par contre des saisons inédites, dont bien sûr Doctor Who.
Oh, la mais merde, saison tu 5. M'as dit que c'était autre chose. Oh.
Ouais, vas-y, les bip bip.
Surtout que celle-là, elle est hyper attendue.
Ouais, hein. Fais péter le
Ça va arriver après.
Elle dure 5 minutes 20. Alors, la reprise par
Orbital. On en est au 11e Docteur. Tu le savais ?
Oui, et théoriquement, il y en a que 10.
Ouais, mais bon.
Et là, voilà, ils ont fait un reboot et tout, et c'est pas n'importe qui est derrière.
C'est Matt Smith, donc le nouveau Doctor Who dans cette saison 5, avec également une nouvelle collègue, hein, Freema Eggman s'est barrée, elle allait voir du côté de Londres, police judiciaire, si ça marchait mieux, et c'est donc Amy Pond.
Tiens, elle aussi ?
Bah ouais.
Parce qu'il y avait la Black aussi qui y était allée.
Bah c'est elle.
Non, mais il y en a une autre entre temps. La dernière saison, c'était pas elle.
Oui, mais non, mais c'est pas grave.
D'accord.
Et donc c'est Amy Pond qui sera aux côtés de Matt Smith pour cette nouvelle saison dont France 4 vous diffuse. Tu vas faire chauffer la F-Box ce soir. Ce soir à 20h35 sur France 4. Donc 3 épisodes à la suite de Doctor Who. Cette 5e saison on compte 13. Donc il y a de quoi faire, hein, sans problème. Le premier, le prisonnier zéro. Le deuxième, la bête des bas-fonds. Et le troisième, la victoire des Daleks.
Waouh, 3 épisodes d'un coup. Juste une chose, donc le showrunner actuel, c'est celui qui a fait l'adaptation de Sherlock. Donc vous voyez déjà le niveau, surtout qu'il a fait quelques épisodes qui étaient vraiment très 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 haut, justement dans la reprise de la série. Donc ça, on les attend. Voilà, j'essaie de faire la montée, voilà.
Ok, c'est Doctor Who, donc c'est
c'est parce que là, ça part.
Ah ouais, d'accord, la montée. Donc ce soir, 20h35, France 4, Doctor Who, saison 5.
Je me demande pourquoi on s'emmerde à lui faire des cadeaux pour Noël et tout. Il suffit de parler de Doctor Who, tu lui laisses faire son mix derrière, et il est content, regarde la banane qu'il a.
Ils ont tout refait, ils ont même refait le TARDIS. Il est encore plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Tu vois, il a commencé l'émission en zombie, il n'arrivait pas à aligner deux mots, là il revit, là.
Il l'avait pété, il l'avait massacré, le TARDIS.
Je sais plus. Je me referai les DVD, voilà.
Alors, il y a également la saison 9 de New York Section Criminelle qui démarre ce soir sur TF1 23h20 avec la passation de pouvoir et la passation de rôle entre la paire historique, à savoir Vincent D'Onofrio et Catherine Herb, dans les rôles de Goren et Eames, et qui vont passer la main donc définitivement là pour ce coup-là. À Jeff Goldblum dans le rôle de Zach Nichols et à Saffron Burroughs dans le rôle de Serena Stevens. Donc ça va nous changer et tout. Puis moi j'aime bien Goldblum, je trouve qu'il s'est bien intégré à la série, on l'a déjà vu. Il était déjà dans plusieurs épisodes de la saison 8 et en alternance avec Chris Noth et avec quelques apparitions quand même de Vincent D'Onofrio pour faire en bonne mesure. Mais là, c'est décidé, c'est lui qui tiendra donc le rôle récurrent principal dans ce New York Section Criminelle qui débute ce soir par un épisode qui sera en 2 parties. Raison d'état numéro 1 et numéro 2, une saison qui compte 16 épisodes. Il y a également le dernier épisode de la saison 2 de Valander, la version anglo-suédoise de Kenneth Branagh, qui est diffusée vendredi prochain à 20h40 sur Arte. Ça s'appelle La cinquième femme, et d'après le pitch, ça a l'air un petit peu plus rentre-dedans, on va dire, que les précédentes.
Ça l'était déjà.
Ouais, que les précédentes, genre, ça envoie, mais... Ouais, ok. Donc c'est la semaine prochaine, 20h40, c'est le dernier de la saison 2. Il y a également vendredi prochain, 23h, sur Game One. Et là, je sais pas comment j'ai fait pour le dégoter, quoi, mais c'est la diffusion de Free Jimmy, qui est en fait un long métrage anglais d'animation qui a reçu le prix du meilleur film d'animation à Annecy.
En quelle année ?
Ça, c'est pas précisé. Donc voilà.
Sur Game One ?
Ouais, c'est sur Game One, c'est vendredi prochain à partir de 23h.
Ah bah, tu me le dis, je te passerai.
Alors par contre, il va falloir que tu me cales également un autre disque là qui se trouve par là, celui
par là,
avec,
là.
Voilà. Et il faudra que tu me cales
Ouais, voilà, on fait nos playlists en direct, c'est génial.
Le 5. Allez, vas-y, fais péter le 5. Tiens. Alors à présent, quelques petits téléfilms. Alors je m'intéresse surtout à la programmation.
Ah, pas de suite, c'est après.
Oui oui, après après quand je te le dirai.
Tu me bloques le lecteur CD pendant les 30 minutes qui restent encore.
Non. Alors donc comme on s'intéresse vachement aux films en prime time et tout quoi, c'est-à-dire pour les gens qui travaillent la journée et tout, on oublie tous ces gros feignants quoi qui restent à la maison toute la journée et qui ont rien d'autre à foutre que de regarder la télé.
Pourquoi tu me regardes?
Bah, je te regarde parce que t'es en face de moi.
Je pensais que c'était moi qui disais.
Non, pour personnaliser.
Ouais, je peux te raconter tous les épisodes du JAG. Ils s'en sont les héros. Rediff de la saison 1.
C'est bon. Laisse tomber. Cet après-midi, donc, des téléfilms l'après-midi, donc. Avec une petite exception qu'on verra un peu plus tard. Samedi, donc aujourd'hui, à 14h35, bientôt, Collision Fatale de Terry Cunningham avec Stephen Baldwin, Dirk Benedict et Amy Price. Et ça a sonné, tu peux ouvrir. Stephen Baldwin, Dirk Benedict, lequel est le scientifique, lequel est l'expert en démolition? Je te laisse le choix parce que bien, c'est eux qui vont sauver la Terre menacée de destruction à cause
Stephen Baldwin
de la collision d'un astéroïde et de la Lune. Donc c'est cet après-midi sur TF1. Il y a également cet après-midi sur RTL9, prise d'otage à Atlanta, celui-là il est excellent. Albert Pune, 97 avec Rutger Hauer, un ancien karatéka.
Oh là là.
Et ça se passe à Atlanta pendant les Jeux Olympiques. Donc lui, c'est le patron d'une équipe et tout. Il a été médaillé également olympique et tout. Et là, il doit reprendre du service parce qu'il y a des terroristes qui ont pris en otage une équipe olympique.
Ah oh, putain, mais de quel pays?
Ah ouais. Attends, il y a Andrew Dibov dedans, quoi. Alors,
qui?
Andrew Dibov.
C'est qui ça déjà?
Andrew Dibov, tu connais pas Andrew Dibov?
Non, c'est qui?
Il connaît pas Raoul.
Et Lyndon Ashby qui joue le rôle d'un entraîneur également. Voilà. Donc dans cette prise d'otage à Atlanta. Il y a également sur TF6, j'en ai parlé la semaine dernière à 15h, Cyclone catégorie 6 de Dick Lowry avec Thomas Gibson, Brian Dennehy et Nancy McKeon. Mais ça, c'est en deux parties, 3h10.
Rien que le nom est extrêmement nanar, puisqu'il n'y a que 5 catégories de cyclones.
C'est exactement ce que tu avais dit déjà samedi dernier quand j'en avais parlé.
Excuse-moi.
Comique de répétition.
C'est un petit peu obligé avec eux. Hein,
demain, 15h25 sur France 3, Poirot joue le jeu, un Clive Donner de 86 avec Peter Ustinov dans le rôle titre et Gene Stapleton. Sur NT1, si vous l'avez loupé, il repasse Impact imminent demain à 13h35 de James Seal avec Mark Dacascos, Rutger Hauer, John Rhys Davies, Mark Rolston.
Oh là là.
Ça, c'est du casting béton. Et sur Teva, demain à 15h50, un candidat idéal de James Keach en 96 avec Jane Seymour, Bruce Greenwood et Linda Pearl. Lundi sur TF1 à 14h55, c'est-à-dire après les feux de l'amour, mariage et quiproquo, inédit d'ailleurs à la télé, de Craig Price à la télé française avec Tia et Tamera Mori et Chad Connell. Alors, histoire de jumelles et tout, quoi. Sauf que là, il y en a plus puisque c'est Nana qui va accoucher d'un quintuplé, quoi, carrément, quoi. Et bon, il y en a au moins deux, c'est des vraies jumelles, hein, de toute façon, quoi. Sur M6, 13h40, pour les yeux de Taylor, d'Austin, de Burton Morris, en 2011, c'est tout neuf et c'est également inédit avec Jenny Gart. On la retrouve, Ethan Erickson et Fred Willard. C'est l'histoire d'un comédien qui tombe amoureux d'une serveuse dont la fille de 6 ans est aveugle. Mais que va-t-il faire? Va-t-il l'aider ou va-t-il privilégier sa carrière de comédien? Vous le saurez donc lundi sur M6, 13h40, pour les yeux de Taylor. On a également, si je retrouve ma feuille, sur RTL9, à 15h, lundi, Roadhouse. Ça, c'est pas un téléfilm, mais il n'y a Patrick Swayze dedans. Donc, c'est normal. Ben Gazzara également, Kelly LeBrock. Et sur Sci-Fi, alors celui-là, il doit valoir son pesant de cacahuètes. À 13h35, lundi, le Cyclope avec Eric Roberts et Kevin Stapleton. Imagine-toi Eric Roberts en petite jupette dans une arène dans la Rome antique. Ah, ça le fait, ah, ouais. Ça le fait. À Rome, l'empereur jette dans l'arène un soldat et un cyclope qu'il vient de capturer.
Mot discothécus, biscotus.
Salut Jules.
Mardi sur TF1 à 14h55, les petites surprises de la vie de Douglas Barr avec Melissa et Scott Reeves, Terry Garr, Judith Ivy et Kate McNeil. Sur M6, 13h40, Papa Poule Weekend Cool de Adrian Zeller. C'est un téléfilm allemand avec Papa Tina Mouland, cool. Jörg Schüthauf et Isabelle Brogarb. C'est l'histoire d'un papa qui va suivre sa fille qui part faire la fête pendant le week-end avec ses potes à Berlin, et donc il va les pieds et tout quoi.
Ouais, c'est un papa cool. Alors
ça va partir en cool, non en cool.
En couille. Papa cool.
Sur RTL9. Sur RTL9 à 13h20, Horizon lointain de Thomas Jauch avec Floriana Petri et Hannes Janicke. Après la mort de sa mère, une jeune fille part à la rencontre de son père qui possède une ferme en Namibie. Attention, c'est pas un blague, c'est Alex Yannicke, donc il n'y a pas de problème, ça va très bien se passer. Et mardi, il y a également beaucoup de Sherman, d'ailleurs, j'ai repéré trois Sherman, carrément. Quoi.
Ah ouais, carrément.
Avec tout d'abord, et là, tu vas préparer, envoyer le disque, sur Cinéma Classique, mardi, à 20h30, La Fille des Prairies de George Sherman, avec Yvonne De Carlo, Howard Duff et Dorothy Hart. C'est une transposition d'un personnage qui a vraiment existé, Calamity Jane, interprété par Yvonne De Carlo. Bon, c'est pas mal, c'est sympathique. Sur TCM, mardi prochain, à 1h35 du matin, L'Étoile du Destin de Vincent Sherman en 51 avec Brody Crawford. Et enfin, rediffusion sur Polar à 22h40 de L'Affaire de Trinidad de Vincent Sherman en 52 avec Rita Hayworth.
A chicky chick boom, chick boom. A chicky chick boom, chick boom. Now says you are in the room with the Trinidad lady. A chicky chick boom, chick boom. A chicky chick boom, chick boom. Your ticker goes boom, boom, boom for the Trinidad lady.
It's only that I do what I love. What I do can't help the mad desire that's deep inside of you. You realize the fire.
Les entrées de Sushinette sont de plus en plus sexy. Hein.
Ouais. Mais ça, vous pouvez pas savoir parce qu'on fait de la radio. Mercredi sur M6 à 13h40,
ça chante bien,
Les Enfants contre-attaque de Zoltan Spirandelli, qui est un téléfilm allemand comme son nom ne l'indique pas, avec Fritz Karl, Anne-Catherine Kramer. Et c'est l'histoire de quatre enfants qui ont essayé de saboter le remariage de leur père avec une femme qui en fait s'intéresse qu'au pognon du mec et pas du tout c'est pas du tout de l'amour. Donc et sinon sur RTL9 à 15h10, Ma Nounou est millionnaire de Bettina Wörley, également un film allemand avec Gregor Thurs et Julie Stenberger. L'histoire d'un mec qui, avant de pouvoir reprendre l'entreprise de son père, il a prouvé qu'il sait faire capacité d'organisation et donc il devra s'occuper de 3 enfants avant de pouvoir s'occuper de son entreprise. Il y a également, si je retrouve la feuille, parce que là ça commence à être le gros bordel, là, c'est le gros bordel.
Tu es numéro.
Ouais, voilà.
Non, mais il fait tout papier stylo.
Mercredi sur Energy 12, Harriet l'espionne de Ron Oliver à 13h30 avec Jennifer Stone et Christine Boots. Et c'est sous-titré La guerre des blogs. Donc je suis sûr que tu seras devant ton écran mercredi prochain sur Energy, devant Energy 12.
Pas.
Sur Teva à 13h35, Mariage et cœur brisé avec Adam 13, Radha Mitchell et Mia Kirchner. Jeudi sur TF1 à 14h55, donc toujours après Les Feux de l'amour. Un bébé à tout prix de Eric Stiles avec Heather Graham, Mia Kirchner, Tom Ellis. C'est l'histoire d'une femme qui est proche de la ménopause, qui donc cherche à avoir un bébé. Elle cherche le candidat idéal pour avoir le bébé.
C'est qui joue la mère?
Heather Graham.
Ah bon? Bah ouais. Elle est jeune, Heather Graham, c'est celle qui jouait dans Austin Power 2.
Ah ben non, c'est Mia Kirchner, je suis con là.
Tu dis la ménopause est de plus en plus.
Quoique. Avec les CGI, tu sais, on peut tout faire de nos jours.
Oh non. Oh M6. Non, là tu es crade avec la 3D.
Sur M6, jeudi prochain, 13h40, toute première fois de Klaus Klösel.
Ah bah,
avec Jasmine Schwirz, Gilles Ofarim et Christian Blümel.
Et c'est l'histoire de Jasmine Spears qui veut séduire un camarade de son collège et qui donc, comme elle est embarrassée par sa virginité, elle va demander des conseils à son voisin qui est gay. Sur RTL 9 à 15h05, toujours jeudi prochain, Blanc comme l'enfer de Michael Switzer en 2000, avec comme couple Patty Duke et William Devane. Et ils s'entendent pas dans la vie et tout, mais ils vont être confrontés à une tempête de neige. Et là, bah, ça va les, nous, les scotcher,
ouais,
les réveiller.
Ouais, mais la neige, ça
rapproche. Et je vous propose également une version allemande de The Love Boat sur M6 vendredi prochain. Non, ouais, sur M6 vendredi prochain, 15h30, sous le charme de Tahiti de Michael Schenke en 99 avec Siegfried Rauch, Manfred Zapatka qu'on avait vu dans Berlin Brigade Criminelle. Et c'est lui, Jan
Berlin.
C'est lui qui joue le rôle de Jan. Et on a également Jürgen Heinrich. Sur vendredi prochain, on a également Ma voisine du dessous sur TF1, 14h55, dédié au Flaherty. Avec Michel Larocque, Mathieu Modine et Gina Montegna.
Ah ouais.
Alors tu vois le casting un petit peu pour...
Ouais, hétéroclite, on va dire.
Ouais, ouais, ouais. Et sur RTL 9, on a enfin un grand amour de Richard Efron en 96 avec Kelly Rutherford et Michael Landes. Et je vous avais préparé également vite fait un petit...
Oh putain, qu'est-ce qu'il nous sort de ce sport ?
Attends,
13h30, pile poil, stop.
Une petite merde, sélection ma des films de XXL.
Ah,
non,
avec toujours les jeux de mots concernant les films blockbuster. Ouais, alors ça commence ce soir, alors c'est toujours à minuit.
Vous avez cherché son alerte cul là.
Alors,
mais laisse-le parler.
Tout d'abord, samedi soir, ce soir, Very Bad Trick.
Ouais. Oh là 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 là.
Ensuite, demain soir, La Gouvernante. Ça, c'est un dorsel. Lundi, Art Sex in the City.
Oh là là.
Alors, moi j'aime bien celui-là. Mardi, Lani, chienne infidèle. Mercredi, serveuse à la carte. Jeudi, c'est brésilien sur XXL avec J'aime ton cul 2. Et vendredi, Dorsal Airline Flight DP 69.
Ouais. Quel horreur.
Que du bonheur.
Super.
C'est que du bonheur. Je vais encore me faire engueuler par les copains du CSA. Tiens.
Et voilà, il fait tout tomber du coup.
Non, mais c'est bien, on a terminé en beauté là.
Thomas, pour justement nos amis du CSA qui n'ont commencé à prendre l'écoute qu'à 13h30 pile, peux-tu faire un résumé comme ça pour voir ce qu'ils ont loupé depuis le début, quoi?
Ouais, comme ça pour voir. Alors on avait le retour du on avait un Death Reach aux fraises, on avait des parpaings dans la gueule, du temps partiel japonais, du cahier dépressif, du manga très salé, de l'autobio, John Lennon et Keith Richards se sont défoncés. Le retour du docteur qui a réveillé Death Reach, les playlists improvisées en direct, c'est toujours bien. Ouais, je connais pas Andrew Divoff. Un papa cool qui part en couille et la chasse à la ménopausée.
Nom d'un titre, tendance cabreuse, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver nos chroniques écrites.
Érotique, non ?
Comme voilà. Par exemple The Green Hornet, je ne sais pas si c'est sexuel derrière. Une interview assez intéressante publiée par Nanarland de Alex Gester, qui est adaptateur dans une entreprise de sous-titrage et de doublage. C'est assez intéressant parce que, outre les films, je vais dire, très bien produits, etc., il a fait le doublage de quelques nanars comme Cannibal World, Land of the Death, donc je pense que c'est relativement intéressant de le lire. C'est même très fond d'art. Et pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur supplémentweekend.fr, supplémentweekend.fr, et tu pars au 7ème ciel. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines avec la Chine moderne, à la fin d'un triptyque passionnant et Tron. Ciao, bye bye.